L'alternative.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Tous les deux, vous travaillez, vous êtes pigiste.
Il est trop pressé. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Et oui, ce soir, comme on vous l'avait dit la semaine dernière, on va revenir sur ces ventes d'armes et sur les ventes d'armes et sur l'hypocrisie de l'État français à travers l'interview de deux journalistes d'un groupe qui s'appelle Disclose, d'un collectif qui s'appelle Disclose, qui est spécialisé, mais pas seulement, sur les histoires d'armement.
Oui.
Qui avait déjà révélé les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Et pour nous, c'est important de revenir sur cette affaire, même si elle est emblématique et en vrai, on n'est pas, nous, très surpris, et c'est pas ce qu'on peut appeler un scoop, mais c'est parce que dans notre esprit et dans la position assez difficile qui est à tenir aujourd'hui face à la guerre qui a lieu en Europe, voilà un biais sur lequel nous, ici en France, on pourrait s'appuyer. Pour lutter contre notre propre impérialisme et ne pas se retrouver dans une situation merdique telle que on peut l'être parfois aujourd'hui, à choisir entre d'un côté les saloperies russes et de l'autre les horreurs de l'OTAN et les horreurs américaines. Même si bien évidemment, je le dis pas avant parce que pour nous ça paraît une évidence, mais aujourd'hui parfois les esprits sont simples, il est bien évidemment que notre solidarité d'abord elle va au peuple d'abord et évidemment au peuple ukrainien et au peuple russe qui se prennent de plein fouet les conséquences des décisions et des petits jeux guerriers de leurs dirigeants. Alors voilà, l'interview dure une demi-heure, ça nous laissera pas forcément beaucoup de temps pour commenter, mais on essaiera de vous dire quand même quelques trucs. Voilà, allons-y Camille, s'il te plaît.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Tous les deux, vous travaillez, vous êtes pigistes, et tous les deux, vous travaillez, entre autres, pour Disclose, et vous avez sorti un scoop sur les ventes d'armes de la France à, alors je dis à la Russie, mais on va dire à Poutine. Selon votre enquête, la France a livré des armes à la Russie entre 2015 et 2020,
Selon vous, la France a livré des équipements militaires dernier cri, un armement qui a permis à Vladimir Poutine de moderniser sa flotte de tanks, d'avions et d'hélicoptères de combat, et qui pourrait être utilisé dans la guerre en Ukraine.
Ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas eu des livraisons, par exemple, de bateaux, d'avions, mais c'est des composants électroniques qui sont très importants, qui sont installés, qui sont cruciaux, déjà modernes, et qui ont permis de moderniser des tanks, des avions, des hélicoptères d'attaque, des bombardiers, et ces modèles-là, donc on parle pour les spécialistes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais des tanks T-90 par exemple, ou des avions Sukhoi 30. Voilà, donc les avions Sukhoi par exemple, bah, c'est des avions de chasse, parmi les avions de chasse qu'a l'armée russe, qui ont été modernisés en partie, notamment par des outils de Thales, des systèmes de navigation de Thales. Et ces avions-là, on les a observés, Élie et moi, on les a observés sur le territoire, dans l'invasion de l'Ukraine actuellement.
Quand tu dis que vous les avez regardés, c'est en fait vous avez retrouvé les modèles de tanks, les modèles d'équipements, etc.
C'est ça. Et là, pour le coup, il y a une carte qui est très bien documentée, très bien alimentée, qui a été faite notamment par Bellingcat, qui est un autre site d'information en source ouverte, et qui répertorie toutes les vidéos, qui les fact-check et qui répertorie toutes les vidéos qui circulent sur le conflit ukrainien. Mais donc, ce qui est important de comprendre, c'est on nous l'a reproché. C'est pas des armes létales qu'on livre, enfin que la France a livré. Oui, il n'y a pas de Calais, il n'y a pas de FAMAS, il n'y a pas d'avions de chasse, mais c'est des composants cruciaux destinés à des équipements qui, eux, sont létaux.
Effectivement, l'avantage de ce conflit, entre guillemets, pour un sujet comme celui-là, c'est qu'il est extrêmement documenté et surtout les Ukrainiens causent beaucoup, beaucoup de pertes à l'armée russe et évidemment, à chaque fois qu'ils ont abattu ou capturé un tank, un hélicoptère ou un avion, ils se prennent en photo avec et ils le filment. Donc on a quand même repéré beaucoup, beaucoup d'équipements qui nous intéressaient parce qu'on savait que potentiellement il y avait du matériel français dedans. Et c'est assez hallucinant d'ailleurs de voir, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres contextes où on puisse trouver à ce point-là autant d'images aussi vite. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement c'est pas des armes létales, mais tout comme la lunette sur un fusil n'est pas létale, n'empêche qu'elle permet de tirer quand même dans le matériel qui notamment a modernisé les tanks. Je crois que c'était la com de Thales qui disait elle-même, c'est ce qui va vous permettre de tirer le premier. C'est ce qui va permettre à un char de voir son ennemi avant que son ennemi ne le voie et donc de tirer en premier. Sur les avions, il y a des systèmes de géolocalisation qui permettent d'être autonomes des satellites américains ou européens. Du genre de petit détail qui va être crucial pour un pays qui va être mis au banc des nations assez rapidement. Donc la France a pas livré des vis, quoi. Elle a quand même livré du matériel qui est très important, qui est de haute technologie.
Si j'ai bien lu votre redoutable enquête, en fait, vous avez des documents confidentiels de défense, vous en avez deux dont on va parler. À partir de ces documents, vous vous êtes demandé est-ce que ces armes, on les retrouve dans les vidéos qui sont actuellement diffusées depuis maintenant quelques semaines en Ukraine. C'est ça, vous avez essayé de voir, est-ce que ces armes qui sont vendues sont en action?
En fait, il y a pas mal déjà d'informations en source ouverte. Il y a eu un article notamment de EU Observer qui avait, en 2015, qui avait fait une liste déjà de tout un tas d'équipements produits par Thales et Safran et exportés en Russie. Il y a une vidéo qui date de 2014, est accessible hein, depuis plusieurs années sur Internet, qui montre un tank russe capturé par les Ukrainiens. Et à l'intérieur, il y a une caméra thermique Thales, donc une caméra thermique, ça permet en gros de détecter des cibles pendant la nuit. Et là, c'est en plus très très loin, à un rayon, je crois, de 10 km. En fait, il y a déjà aussi tout un tas d'articles d'experts sur des sites de défense, etc., qui répertorient des matériels français qui ont été vendus. Et donc, on a croisé ces informations sur des sites spécialisés avec des notes et des informations confidentielles.
il y a un embargo normalement et que donc normalement, en tout cas, d'où votre étonnement et votre travail de recherche. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais bien partir des deux documents que vous avez dénichés, qui sont deux documents classés confidentiels défense, celui du 19 mai 2016. Que dit ce document ?
Par défaut, les exportations d'armement, c'est interdit en France. Mais une commission se réunit avec des représentants du ministère des Armées, du ministère de la Commission, du ministère de l'Économie, du ministère des Affaires étrangères, et ils décident si Thalès a le droit d'envoyer des caméras thermiques, des systèmes de navigation pour des avions russes. Et donc cette commission, elle a lieu à peu près toutes les semaines. Et à la fin, s'ils sont pas d'accord entre eux, c'est le Premier ministre qui va trancher. Là, dans le cadre de la Russie, ce que montre ce document, c'est que tout le monde était d'accord. Il n'y avait pas de débat. Tout le monde était d'accord pour valider ces licences, valider ces livraisons. Ça concerne des contrats, ce qu'on apprend avec ce document, c'est que ça concerne des contrats signés avant 2014. Pas 1000 ans avant 2014, mais en 2012, 2013.
Donc 2014, c'est le Donbass.
Voilà, 2014, mars 2014, c'est l'annexion de la Crimée. En juillet 2014, la Russie abat un avion civil avec un missile et l'Union européenne décide le 1er août 2014 de mettre en place un embargo, interdiction d'importer, d'exporter des armes russes ou vers la Russie. Voilà, mais dans l'embargo, il y a un petit article, ce qu'on appelle la clause du grand-père, qui permet, on pourrait y revenir, mais donc cette clause, en gros, permet de poursuivre tous les contrats, toutes ces livraisons qu'on révèle sont légales, enfin sont en tout cas pas interdites par l'Union européenne, plutôt. Et donc, il n'y a pas eu de nouveaux contrats après 2014, mais des livraisons qui étaient prévues ont pu continuer, et dans les années, mais au moins jusqu'en 2020.
2016, on est quand même déjà 2 ans après l'annexion de la Crimée, 2 ans après le crash du MH17, 2 ans après la guerre alimenté par la Russie dans le Donbass, puis 2016, on est aussi 1 an après l'intervention russe en Syrie. Ils sont déjà en train de pilonner Alep, etc. Donc voilà, c'est quand même à ce moment-là que effectivement la France se dit oui, on peut livrer ce qui nous restait à livrer à la Russie. Enfin voilà, on y reviendra, mais tout ça pour dire qu'on n'a pas découvert il y a 2 semaines que Vladimir Poutine était un dictateur belliqueux qui avait tendance à écraser des civils avec ses avions, quoi.
En fait, tout ce que vous mettez à jour, c'est légal. C'est la question de la légitimité que vous ne posez pas tout à fait dans votre article, mais grosso modo, c'est un peu ce que vous voulez faire comprendre au lecteur, c'est-à-dire est-ce que même si c'est légal tout ça, est-ce bien raisonnable, est-ce bien légitime, c'est ça?
C'est vrai que on utilise un peu à tort, je trouve, le mot légal. Disons que ce n'est pas interdit par l'Union européenne. Mais rien ne force la France à utiliser cette clause. Ça permet, et en réalité, les engagements européens et auxquels la France est soumise également, c'est de respecter la position commune de 2008 qui dit « vous ne devez pas exporter des armements si ça risque d'aggraver un conflit ou provoquer un conflit. Et si il y a un risque de qu'elle soit utilisée pour des violations des droits humains. Donc par exemple viser des bâtiments civils. Or là, manifestement, l'État français a estimé que donner des armes à la Russie, qui responsable de crimes de guerre en Syrie notamment, qui annexe la Crimée, eh bien, ça ne pose pas de risque, ça ne risque pas d'aggraver le conflit. Et c'est là où il y a un débat à minima qui devrait se tenir. Comment la France a évalué ça? Et un certain nombre d'experts pourraient dire c'est en contradiction avec les engagements pris. Donc la question de la légalité, je dirais attention, c'est pas formellement interdit, mais c'est en contradiction quand même avec les engagements pris par la France.
Il y a un truc aussi qui revient souvent sur ce genre d'enquête, on dit aux journalistes en général c'est légal, mais est-ce que c'est vraiment moral? Et c'est pas tellement une question de morale, c'est une question de politique. C'est que là, on voit bien quand même avec ce qu'on a révélé hier que à un moment donné, on a une politique étrangère qui est un poulet sans tête. C'est-à-dire que là, on se retrouve quand même à avoir délivré des équipements qu'on va détailler à un belligérant qui est en train de menacer directement nos intérêts à nous, la France, en réalité, parce que Vladimir Poutine est évidemment en train d'attaquer l'Ukraine, mais aussi de menacer l'Europe et l'OTAN, et a priori, on est encore dedans. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de sens à ce genre de politique. On nous dit tout le temps que c'est pour les intérêts de la France et que la morale, etc., on s'en fiche. Là, on voit bien que les intérêts de la France, on voit pas bien où ils sont dans cette affaire.
Les bénéficiaires de ces marchés, c'est Thalès, dont tu as plusieurs fois cité le nom, Ariane. C'est Safran, que vous avez cité aussi, dont l'État français est le premier actionnaire. Donc, ce sont, c'est directement lié au pays, on va dire. Et puis, il y a une autre société, la société Sofranir, que je ne connaissais pas, qui a signé un contrat de 5,2 millions d'euros avec la Russie en octobre 2012. Alors,
C'est une filiale de Thalès et Safran, en fait. Donc, à la fin, c'est Thalès et Safran.
Foulque vous dit, oui, mais alors, les contrats d'armement, c'est toujours sur des périodes longues. Sous-entendu, quand tu signes...
Oui, mais c'est bien le problème. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup ri hier quand j'ai découvert qu'on appelait ça la clause dite du grand-père. Parce que du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, à la fin, c'est le petit-fils qui en paye le prix, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Et là, effectivement, c'est sur le temps long. Oui et non, parce que là, on parle de contrats qui ont été passés sous le mandat de Nicolas Sarkozy, en gros, et qui ont été, qui ont continué après sous le mandat de François Hollande, puis d'Emmanuel Macron. Or, c'était déjà questionnable de filer tout ça à la Russie sous le mandat de Nicolas Sarkozy. En 2008, la Russie, elle envahit la Géorgie. On se souvient de Nicolas Sarkozy qui avait essayé de calmer le jeu et de faire de la diplomatie avec Poutine, comme tous nos autres présidents derrière auront décidément essayé. Et déjà à ce moment-là, en réalité, on aurait pu se poser la question de est-ce qu'on continue ? Parce que Poutine, c'est 20 ans de guerre. C'est la deuxième guerre de Tchétchénie, c'est la Géorgie, c'est la Syrie, c'est le Donbass en 2014 et maintenant l'Ukraine. Donc cet argument, il tient pas. En réalité, c'est juste qu'on a été dans l'erreur sur un temps long. Ça, oui. Voilà. Mais les contrats, même sur un temps long, on peut très bien décider de les rompre. C'est exactement ce qu'on a fait avec les Mistral en 2015, parce qu'en réalité, les Mistral, légalement, justement, on pouvait les livrer, vu que la commande avait été passée avant 2014. Donc à ce moment-là, le pouvoir, il a bien compris que symboliquement, ça craignait quand même très fort d'envoyer deux trucs comme ça à la Russie, qui aujourd'hui, effectivement, pourrait se retrouver en mer d'Azov à faire la guerre aux Ukrainiens. Mais il y a eu un choix politique de dire non, on ne le fait pas, malgré le fait que ça soit un contrat de long terme, etc.
Choix dont vous dites finalement qu'il n'a pas été fait là pour ces armes-là, et c'est ça que vous pointez, en fait.
Oui, c'est ça. Les Mistral, c'est difficile à planquer. Faut admettre que ça se voit, quoi. C'est deux gros porte-hélicoptères. En plus, ils auraient typiquement, si là les Russes les avaient aujourd'hui, ça serait super important pour eux. Enfin, c'est vraiment des bateaux qui sont qui ont des capacités opérationnelles qui sont importantes. De fait, effectivement, une caméra... c'est bête, mais une caméra...
Tu vas te transformer en VRP de Thalès, toi. Ou de Mistral, ou de je ne sais quoi.
Mais de fait, c'est on n'aura pas vendu, pardonnez-moi de l'expression, mais on n'aura pas vendu de la merde. Et ils vont pouvoir s'en servir. Mais effectivement, une caméra Thalès, il faut rentrer dans le char. Pour l'avoir, donc c'est beaucoup plus discret, c'est des...
Oui, et puis il n'y a pas de communiqué de presse. La France, en général, communique sur des gros contrats d'armement. Elle communique, par exemple, sur les Émirats viennent d'acheter 80 Rafales, l'Égypte 30 Rafales, ou des gros navires, par exemple, donc les porte-hélicoptères Mistral. Mais sur les petits contrats, comme des caméras thermiques, très peu, rarement, des communiqués de presse, sauf quand ça se passe lors d'un salon, par exemple. Comme ces contrats sont pas publicisés, il n'y a pas vraiment besoin de dire qu'on les annule. C'est plus discret. Donc la France, le gouvernement français a fait le choix politique de conserver des contrats de quelques millions d'euros, qui sont pas en termes financiers très importants, mais de conserver ces contrats pour des raisons qu'on ignore.
Est-ce que ces systèmes de visée qui ont été vendus à la Russie ont été utilisés en Syrie ou pas ? Il y a beaucoup de questions
sur les avions, sur les Sukhoi 30, il me semble que oui. Enfin, c'est en fait la Russie est en train de de déployer les mêmes équipements que celle qu'elle a déployée en Syrie. Il y a quelques mois, le ministre russe de la Défense se félicitait d'avoir testé 320 armes en Syrie, quelque chose de cet ordre-là. Et tout ça, maintenant, ils ont fait joujou avec en Syrie, ils font joujou avec en Ukraine.
Il y a un risque, effectivement, que ça soit utilisé en Syrie contre les populations civiles. Et c'est ce qu'avait pointé, dès 2012, un certain nombre d'ONG qui avait dit, attention, des systèmes de navigation Thales installés sur des avions de combat qui sont utilisés pour bombarder les villes syriennes, sont en infraction avec en contradiction avec les engagements français de ne pas livrer des armes à des pays responsables de crimes de guerre qui visent délibérément des populations civiles.
On sait que on a livré tel type d'équipement pour tel type de véhicule à la Russie et que ces véhicules, en l'occurrence, ils ont été déployés en Syrie et en Ukraine. Voilà. Alors oui, il reste la possibilité que sur ce véhicule en particulier qu'on voit en Syrie, il n'y ait pas de matos français dedans, qui ne fait pas partie de ceux qui ont été équipés, mais potentiellement si, quoi.
Les accusations qui pourraient vous être faites sur le fait que vous, les journalistes d'investigation et autres, quand ça se passait en Syrie, on s'en foutait, mais on s'y intéresse parce que c'est l'Ukraine, vous répondez quoi ?
Que là, pour le coup, il s'adresse pas à la bonne personne, je pense, mais parce que, enfin, moi, j'ai beaucoup bossé sur la Syrie, pas spécifiquement sur l'armement, mais on parlait de Bellingcat tout à l'heure. Bellingcat, je me souviens, avait fait un excellent sujet sur comment des armes italiennes, par exemple, s'étaient retrouvées dans les mains de l'armée arabe syrienne, également d'ailleurs en violation déjà de l'embargo européen à l'époque. Donc, enfin, c'est toujours un reproche qui est un peu bizarre. En réalité, si vous cherchez, vous trouverez des enquêtes sur ce genre de sujet.
Il faut simplement rappeler qui sont Bellingcat.
Alors, c'est un site d'investigation en OSINT, justement, en source ouverte. C'est les pionniers, en réalité. Ça a été fondé par Elliot Higgins, qui était un geek et qui, au moment des printemps arabes, a passé son temps à analyser les vidéos, les nombreuses vidéos qu'on avait à l'époque. À tel point qu'il arrivait à donner des leçons au Guardian ou au New York Times, qui l'ont rapidement repéré, parce que personne ne faisait ça, en fait. Il faut se rendre compte qu'il y a 10 ans, personne ne savait vérifier une vidéo, géolocaliser une vidéo, etc. Et donc, ils ont beaucoup de faits d'armes à leur actif. C'est eux qui ont réussi à prouver justement que le MH17 en Ukraine avait été abattu par un lance-missile fourni aux séparatistes par la Russie. Ils ont bossé sur l'affaire Navalny. Ils ont réussi à identifier les agents russes qui l'ont empoisonné. Enfin, voilà.
Est-ce que vous avez réfléchi à la portée de tout ça, ou c'est pas votre propos pour l'instant, et vous êtes, vous, dans la recherche d'illustrations, de preuves?
Non, c'est une vraie question. Enfin, on a beaucoup bossé quand même sur la sélection des vidéos, parce qu'on en avait bien plus que celles qu'on a finalement publiées. Déjà, évidemment, on a essayé de publier entre guillemets celles où on voyait le mieux les équipements qu'on voulait montrer. Après, typiquement, on n'aurait pas montré une image violente, parce qu'on en a vu. Enfin, moi, en faisant mes recherches, j'en ai vu beaucoup.
Bien et sûr,
ça,
bien sûr.
Que ça justifie que c'est pas nécessairement utile de bien montrer. Sûr. Après, sur la portée et sur la manière dont ça peut modifier notre rapport à l'actualité, là, les images que nous on a mises, c'est quand même des images qui sont tout droit sorties de ce qu'on appelle, de ce que les spécialistes appellent une guerre de haute intensité. Mais bref, c'est la vraie guerre. Et donc oui, c'est des images de Seconde Guerre mondiale où il y a quelqu'un qui tout d'un coup voit un avion de chasse passer à basse altitude juste au-dessus de sa maison. C'est quelqu'un qui voit un char passer en dessous de chez lui. Et il faut que les gens réalisent que c'est ça qui est en train de se passer en Europe, et que potentiellement, quelque part dans la tête de Poutine, c'est peut-être ça qui peut se passer chez nous dans pas très longtemps non plus. C'est la réalité. On peut pas non plus la modifier pour rassurer les gens. En tout cas, c'est pas mon approche.
Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read. Television, children fed. Unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head. And it's all. Soldier.
make a grave for the unknown soldier nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier.
En fait, ces informations aussi, en les rendant plus accessibles à un large public, ça peut permettre aussi de faire émerger un débat public qui est interdit, étouffé depuis près de 20 ans en France.
Alors justement, le débat public, est-ce que vous considérez, 24 heures après vos révélations, qu'il soit ouvert ?
Il y a un début de débat qui se pose. Je pense que le fait que le ministère des Armées réagisse dans la journée à nos révélations, c'est une première, et qu'elle soit contrainte en fait de dire effectivement la France a vendu des armes à la Russie. On assume.
Donc c'est le porte-parole des armées. Alors d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il tweet avec son propre compte, hein, Monsieur Hervé Grandjean. Bon, très bien. Il a 16 800 abonnés et il vous a répondu. Il vous a répondu à 5h48, donc on va dire quelques heures plus tard. C'est une première dans l'histoire de Disclose parce qu'en règle générale c'est plutôt la DGSI qui vous répond, qui vous convoque. Donc.
Sur le fond, c'est comme le dit Ariane, quelque part, il admet, c'est un long trait pour dire oui, on a honoré des vieux contrats après 2014 et oui, c'est légal. Donc il dit la même chose que nous, en réalité, mais avec d'autres termes.
Ces contrats durent combien de temps ?
Les contrats d'armement, en fait, c'est... Il y a pas forcément de durée, c'est plus la garantie qui va avoir une durée fixe. Donc, quand vous envoyez des pièces, il faut pouvoir les réparer. Donc, ça peut deux ou trois années, je crois, la garantie de pièces militaires. Une licence, il me semble que ça vaut 3 ans. Donc, quand vous donnez l'autorisation d'exporter, enfin, il faut signer le contrat ensuite, mais vous avez 3 ans, en gros, pour conclure votre contrat et le commencer.
Le porte-parole nous explique que cette possibilité est clairement prévue par le régime de sanctions mis en place contre la Russie en 2014. C'est-à-dire, il y a un régime de sanctions qui dit « mais pas tout, quoi ». Il n'y aura pas de nouveauté, mais enfin tout le reste, on peut écouler les stocks.
Oui, mais sauf que ce qu'il ne dit pas, et c'est ce que... Donc déjà, il répond à moitié à nos questions quand même. Il ne dit pas quel type d'armement. Il ne dit pas pourquoi ils ont décidé de l'attribuer, pourquoi ils ont estimé que ça ne posait pas de risque d'aggravation du conflit, de risque dans l'escalade militaire en Ukraine et dans le conflit en Syrie. Donc, il ne répond pas. Il dit oui, il dit « on l'a fait parce qu'on le pouvait ». Voilà, c'est tout. Et on ne vous dira pas pourquoi, on ne vous dira pas si on en a débattu. Juste, on avait cette possibilité, on l'a prise. Ok, mais cette possibilité, vous ne l'avez pas prise dans le cas des Mistral. Les navires Mistral, vous les avez bloqués parce que c'était un choix politique. Et donc, pourquoi.
Et parce que les Américains et les Européens nous avaient demandé de le faire aussi, mais voilà.
Oui, bien sûr, oui, voilà, sur les pressions américaines. Mais donc, pourquoi ce choix n'a pas été pris sur des autres petits matériels qui sont a priori moins stratégiques pour la France, que Safran et Thales construisent tous les deux. Donc, pourquoi cette décision? Et cette décision, on ne la connaît pas parce qu'elle est classée secret défense. Et même après qu'elle ait été décidée, cette décision est toujours classée secret défense. Donc, si les députés demandent « Mais au fait, pourquoi vous avez décidé ça ?» Eh bien, on va leur dire « C'est secret défense ». Et là, on a un problème démocratique de fond. Pour vous répondre sur la réaction qu'a suscité notre enquête, cette enquête dérange, j'ai l'impression, encore plus que ce qu'on avait fait sur Egypt Papers, puisque le site en France subi un certain nombre d'attaques de hacking depuis sa publication hier. Et donc, voilà, nos équipes sont en train de... Enfin, les équipes de Disclose sont en train de travailler pour éviter, mais... Vous avez constaté vous-même que de temps en temps le site est bloqué. C'est parce qu'il y a des attaques.
En termes de mise en scène, Disclose, vous êtes fort. Il y a une réponse.
Non, mais ça veut dire qu'on a touché juste. Moi, je suis contente que le ministère des Armées réponde. J'aurais aimé que ce soit le Premier ministre qui réponde, qu'on avait contacté, puisque c'est lui qui est responsable in fine des exportations d'armement. Donc, ça prouve qu'on a fait un travail d'intérêt public, qu'on a secoué un peu le pouvoir et qui, ça, pour moi, c'est un encouragement à continuer de travailler sur ce sujet.
Magnifique. Moi, ma première réaction, pardon, à ce moment-là, c'est pourquoi c'est le porte-parole des armées qui réagit, puisqu'il nous accuse d'ailleurs de nous en prendre à l'armée, mais en fait, pas du tout. Enfin, on s'en est pris à deux entreprises mais pas à l'armée en tant que telle. On s'en est pas pris à l'armée française dans ce papier. Et surtout, je me dis, là, ils ont plus d'arguments. C'est-à-dire que sur l'Yémen, sur l'Égypte, etc., ils peuvent toujours opposer un truc qui est évidemment fallacieux, mais qui est la lutte contre le terrorisme. Là, on ne peut pas dire qu'on lutte contre le terrorisme quand on file des équipements à la Russie qui est en train d'attaquer l'Europe. Ils sont très emmerdés, je pense.
Oui, mais à l'heure où on se parle, est-ce que la réponse qui est de dire bah, finalement c'est légal et nous sommes transparents, c'est pas la meilleure façon de désamorcer vos révélations et votre travail?
Je pense pas, parce que là, il y a aussi un gros changement, c'est l'opinion publique. L'opinion publique, de manière très large, elle accepte pas ce qui se passe en Ukraine, et elle aimerait bien que les pouvoirs publics agissent d'une manière ou d'une autre pour empêcher Poutine de continuer. Donc, je suis pas sûr que ça marche très bien. Et d'ailleurs, un bon indicateur de ça, c'est de regarder comment les gens eux-mêmes ont réagi à la réponse d'Hervé Grandjean, donc en regardant les quotes tweets, etc. Et il y avait quand même la majeure partie des gens qui se moquaient un peu de lui en disant « Ah bah oui, du coup, c'est légal. »
Oui, je pense qu'en France, il y a toujours un grand respect, parfois une déférence vis-à-vis de la parole de l'autorité. Donc, quand l'État dit « c'est légal », un certain nombre de journalistes, d'experts vont peut-être se dire « Ah, ok, bon, bah alors si c'est légal, si l'État le dit, où est le problème ?» Mais en fait, il faut aller creuser un tout petit peu au-delà de la version officielle et d'interroger est-ce vraiment si légal que ça? Non, il y a des engagements européens. Non, il y a un problème. Il y a une décision politique qui n'est pas expliquée, qui n'est pas démocratique. Donc, il faut aller interroger plus loin. Mais on voit, je suis d'accord, dans les réactions que, en fait, ce tweet a... Le cynisme de ce tweet a très vite quand même été vu, interprété comme tel.
Si on veut continuer le débat aussi, il faut aller sur leur terrain à un moment donné, c'est-à-dire, vous nous dites que c'est légal, très bien. Est-ce que c'était dans notre intérêt? Parce que y a quand même, je vois pas qui a été capable de nous dire depuis hier en quoi c'était dans notre intérêt pour des contrats qui en plus sont pas faramineux. Donc à un moment donné, voilà, ok, c'est légal, mais on n'était pas obligé de le faire. Donc pourquoi on l'a fait et est-ce que c'était dans notre intérêt? Jusqu'à preuve du contraire, c'était contre nos intérêts de le faire. Donc c'est ça en fait, moi que j'aimerais bien, c'est que aussi les autres médias, à un moment donné, on ouvre effectivement un débat non seulement sur la transparence, sur les ventes d'armes en France et le débat démocratique, la nécessaire ouverture d'un débat démocratique sur ces questions-là, mais aussi... Pourquoi faire? Pourquoi vendre des armes? Et quel but ça remplit? Parce qu'on commence quand même vraiment à, même d'un point de vue cynique, intérêt d'État, etc., on commence vraiment à avoir du mal à piger à quel est le but et à quoi ça sert, quoi.
Le ministère des Armées explique régulièrement, les députés expliquent que c'est pour assurer l'indépendance, l'autonomie de la France, et donc pour garder une armée puissante, en gros, avec des équipements performants, il faut exporter, parce que la France ne peut pas acheter tous les matériels et maintenir les lignes de production. Ok, j'entends cet argument. Mais donc, alors, dans des cas précis, prenons les cas précis des caméras thermiques Thales, est-ce que c'est stratégique? Est-ce qu'on a besoin d'exporter ces caméras pour maintenir ces lignes de production? Je ne sais pas, en fait, le débat n'est pas posé. Les arguments ne sont pas exposés publiquement. Les députés ont l'interdiction d'en débattre. Donc, actuellement, il n'y a pas de commission à l'Assemblée nationale sur les questions d'exportation des armements. Il y a une délégation parlementaire sur le renseignement, mais le sujet de la question des exportations d'armements n'est pas abordé. Elle est classée secret défense. Une seule commission a le droit d'en débattre, c'est la commission sur les exportations d'armements, ce dont je vous ai parlé avec le ministère des Armées, le ministère de l'Économie, etc. Mais en dehors de ce lieu-là, il n'y a pas de débat à l'Assemblée. Il y a simplement un rapport qui est publié chaque année par le ministère des Armées et basta.
Est-ce que vous pensez que la guerre en Ukraine peut être justement le déclencheur d'une prise de conscience ou à l'inverse, ce sera un été noir parce que, la France est indirectement en guerre et que donc on parlera de ça quand les choses seront plus calmes.
Ça fait un certain nombre d'années avec les armes au Yémen, les armes à l'Égypte, les armes, que le débat grossit. Il y a un certain nombre de livres qui pointent la question. Et
notamment le livre de Sébastien Fontenelle qu'on salue.
Exactement, les ventes d'armes, une honte française. Et donc, le débat, on le sent dans l'opinion publique, commence à prendre de l'ampleur. Et l'espoir, effectivement, avec cette affaire en Ukraine, c'est que les dirigeants politiques, les candidats à l'élection soient obligés de se positionner sur cette question-là et d'ouvrir un petit peu le débat. La France est un des seuls pays en Europe qui ne veut pas dire quel type d'équipement elle livre à l'Ukraine.
Le porte-parole du ministère nous dit l'inverse. Il nous dit, mais non, on a un rapport chaque année où vous pouvez tout voir.
Dans le conflit actuel, le rapport, il n'est pas encore publié. Et puis là, on parle en plus de dons, si j'ai bien compris.
On leur file des lance-missiles Milan, là. De l'antichar et du Kevlar, a priori. Voilà.
Et donc, ces équipements qui sont donc décidés par une décision, encore une fois, politique, on ne sait pas si c'est le président, si c'est le premier ministre, ou si c'est le ministère des Armées qui décide d'équiper les forces ukrainiennes, soit c'est peut-être une décision importante, un certain nombre de candidats le défendent, mais pourquoi vous ne dites pas quelles armes? Pourquoi il n'y a pas de débat à l'Assemblée pour savoir si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose?
Et quand on compare un petit peu, les Américains, par exemple, ou les Britanniques, ou même les Polonais, enfin les Allemands disent, on a filé tant de trucs à l'Ukraine. On sait que les Américains filent des javelins, ce genre de choses. Enfin, ça ne les dérange pas, en réalité, d'être transparent sur ce genre de trucs. Bon, on n'ose pas. Alors, il y a aussi un truc, visiblement, on n'ose pas parce qu'on aurait peur que Poutine prenne ça mal. Mais c'est à un moment donné, c'est ridicule. Poutine, il sait très bien qu'on est en train de filer des trucs. Il sait peut-être même plus précisément que Corbière ce qu'on est en train de filer. Donc, enfin, ça a pas de sens. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un débat.
Vos révélations sortent le lundi matin et le lundi soir, il y a une émission qui s'appelle Face à la guerre sur TF1 où la question n'est pas posée à Macron Emmanuel.
Elle aurait dû être posée.
Ils vous ont appelé?
Non, je ne sais pas exactement, mais comment ça s'est passé. Mais à Disclose, on a su que, à minima, ils avaient lu l'enquête, qu'ils l'avaient trouvée très intéressante, accablante, et qu'ils allaient essayer de poser une question sur le sujet. On a regardé l'émission, on s'attendait à une question aussi et ça n'a pas été posé.
Pour terminer, si on devait retenir quelque chose de particulier sur votre travail, ce serait quoi l'un et l'autre?
Vas-y, Élie.
Je commence. Comment tout à l'heure, on parlait du temps long et des contrats qui s'étalent sur le temps long. Pour moi, là, on a un bon cas d'école de décisions qui sont prises il y a longtemps. Et qui sont payés plus tard. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire, moi, la cause du grand-père. Voilà, c'est à la fin, c'est le petit-fils qui paye. Et typiquement, dans le cas de la Russie, notre pays, la France, il a manqué l'anticipation et de clairvoyance jusqu'au dernier moment et jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. en réalité, on n'aurait pas eu à attendre 2014 pour arrêter de faire du commerce d'armes avec la Russie. Voilà, donc moi, à la limite, pour moi, c'est ça aussi qui doit être porté dans le débat. C'est genre, voilà, qu'est-ce que la France a comme stratégie pour le monde et vis-à-vis de ses voisins? Et est-ce que vraiment, on peut toujours comme ça prendre tout à la légère et se dire, on verra plus tard ce que ça aura comme conséquence?
Et Ariane?
Ce que révèle notre enquête, c'est l'opacité du système de contrôle des exportations d'armes françaises, l'opacité et sa défaillance, puisque la France est censée ne pas livrer des armes à un pays qui peut provoquer un conflit, aggraver un conflit, et de fait, elle a livré des armes à la Russie qui aujourd'hui envahit l'Ukraine. Donc, il y a eu un problème, et il faut que l'État français, les gouvernements français acceptent de débattre et d'être questionné sur ces questions, sur pourquoi ils livrent des armes, comment, et que ce ne soit plus un débat de quelques experts, de quelques hauts fonctionnaires à huis clos sous le sceau du secret défense. En fait, ce que j'espère avec ce travail, c'est qu'il y ait une réforme du contrôle démocratique des exportations d'armement.
Alors, il nous reste que 20 minutes, alors qu'on aurait énormément de choses à dire. Alors, on salue évidemment l'enquête et les révélations de ces deux journalistes, mais si elle a des vertus dans le sens où elle est très pédagogique et très claire et incontestable, on est quand même un peu resté sur notre fin, que... on a une dénonciation de ces ventes d'armes et de ce contrat qui se situe un peu d'un côté d'un point de vue moral, dans le sens c'est pas bien, et puis d'un autre d'un point de vue politique, dans le sens où c'est pas très démocratique de pas savoir à qui on vend des armes. Et à notre avis, à mon avis en tous les cas, je m'en retourne, mais je pense qu'on partage le même avis, sinon on ferait pas la même émission, il y a quand même on passe à quand même à côté de quelque chose qui est hyper important et fondamental à la fois dans le capitalisme et dans l'histoire de l'État français, c'est le rôle et la place qu'occupe le complexe militaro-industriel dans l'industrie française et dans l'État français. Alors, derrière cette expression un petit peu surannée, le complexe militaro-industriel, c'est l'ensemble des industries de l'armement, les forces armées et les décideurs publics et les influences et les relations qu'il y a entre ces trois pôles. Et la plupart du temps, en économie, ce complexe militaro-industriel français, il constitue ce qu'on appelle un monopsone. On apprend des mots avec les Grégoire, c'est bien. C'est-à-dire que c'est une situation de monopole à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a un seul acheteur, mais il y a plusieurs offres. Et en général, on passe par des appels d'offres. C'est-à-dire que l'acheteur va formuler un désir, une envie, une commande, et ensuite ces offreurs, les marchands d'armes, en fait, vont faire des offres, et ensuite c'est l'État qui va choisir. Donc on voit déjà tout de suite que les relations, elles se font aussi d'État à État, donc il y a des enjeux politiques là-dedans. C'est l'un des pôles de ce complexe militaro-industriel, les décideurs publics. Et puis on voit que en ce qui concerne les chiffres d'affaires et le secteur industriel, c'est hyper important puisque en 2018, l'industrie de l'armement en France était en gros 10 grands groupes qui représentent un peu plus de 4000 PME, dont 350 sont considérés comme stratégiques et environ 200 000 emplois. L'ensemble, ça fait des votes, hein. L'ensemble de ces acteurs du complexe militaro-industriel français sont chapeautés par la DGA, la Direction Générale de l'Armement, qui va donner les directions, les options stratégiques, les ordres, etc., etc. Et si on s'attache un petit peu à regarder, alors notamment au niveau de la constitution du capitalisme français, on a à la fois sur les données industrielles, c'est-à-dire comment on fabrique, comment on organise, où on localise une part extrêmement importante de ce complexe, de cette industrie de l'armement. Plus bel exemple historique, c'était Saint-Étienne, hein, qu'on appelait Armeville à l'époque, qui était vraiment un cœur de ce complexe, et puis aussi des familles très importantes qui vont historiquement constituer ces industries de l'armement.
Alors, comme Dassault.
Comme Dassault, par exemple, mais il y en a d'autres qui sont un peu moins, un peu plus discrètes, on va dire, Panhard, hein. Voilà. Hyper important, et puis également Renault, hein, qui a très longtemps fabriqué des chars. Alors voilà, hein, c'est des noms d'industries que vous connaissez, hein, forcément, hein, Nexter, Arcus, ça c'est vraiment pour le TRS, EADS, Safran, Sagem, Thales, etc., etc., MBDA, donc c'était Matra, c'est un rechange de nom tous les 10 ans, ça fait plus propre, etc., etc. Alors, cette part dans l'économie française, notamment à l'export, elle est hyper importante, quoi. Et donc, passer à côté du cœur de ce que constitue le complexe militaro-industriel et donc l'armement en France, c'est comment dire, ne pas comprendre pourquoi ces questions de morale, ces questions politiques même, elles passent à l'as, parce que en plus, pour le coup, on a une remarquable continuité de l'État au cours de ces années, c'est-à-dire que tel que c'était décrit par les journalistes, on a trois gouvernements successifs avec des couleurs politiques différentes, et pourtant, on va dire le business continue. As usual, quoi.
Comme on peut d'ailleurs se poser la question si, par exemple, Mélenchon était élu, si ça changerait quelque chose.
Alors, il y aurait peut-être des petits problèmes au niveau des impositions, parce que ce complexe militaro-industriel français, comme on l'a vu, il est aussi incarné par des personnes qui détiennent du capital et qui sont, on va dire, pour le coup, des agents qu'on peut identifier physiquement, donc qui constituent en soi une partie de la bourgeoisie française, une fraction de cette bourgeoisie française, qui a aussi des choses à dire sur la politique qui est menée. Si les intérêts de cette bourgeoisie sont menacés, on va dire, d'un point de vue macro, par la politique de l'État français telle qu'elle menée, mais d'un point de vue micro, c'est-à-dire que si on les pique du sou, peut-être qu'il se passe des choses différentes qu'on peut moduler, mais en ce qui concerne, surtout dans la conception qu'a le candidat Mélenchon de la République et de l'État français, il est fort à parier qu'il y aurait une continuité exemplaire. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des pays qui sont arrivés à un niveau de développement plus important que dans les années 60 ou les années 80. Exemple, l'Inde. Qui sont plus
les achètent à tout va, hein.
Voilà, qui sont plus les pouilleux qui étaient comme dans les années 60 ou 70. Et donc, il y a des nouveaux marchés. Et donc, il y a des choses à défendre, il y a des choses à vendre, et il y a du fric à se faire, quoi. On parle pas ici de la corruption et de la commission. Mais ça, c'est aussi, je vois que tu as des notes sous les yeux. C'est pas quelque chose qui est commun à la France, hein.
Oui, alors justement, la Disclose a fait le boulot pour la France. Il y en a d'autres journalistes qui sont regroupés dans, ça s'appelle Investigate Europe. Et c'est donc la même chose que Disclose, mais c'est au niveau européen. Et ils ont trouvé qu'entre 2015 et 2020, il y avait la France, effectivement, qui a vendu, continue à vendre ses armes à la Russie. Mais il y a aussi l'Allemagne, en deuxième. L'Italie, en trois. L'Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, la Finlande, la Slovaquie et l'Espagne. Voilà. Alors c'est important, c'est pas important au niveau fric, c'est-à-dire que ça, enfin, je devrais pas dire ça, parce que pour la France, c'est 152 millions d'euros, pour l'Espagne, pour l'Allemagne, c'est 122 millions d'euros, et pour l'Italie, c'est que 22,5. C'est l'équipement militaire de véhicules tout-terrain, qu'on retrouve d'ailleurs sur le front ukrainien, on les a vus à la télé, ces trucs italiens, qui d'ailleurs sont donc arrivés. Donc il n'y a pas qu'en France que se pose ce problème-là, comme on le disait. Mais il y a aussi le fait que dans ces entreprises, il y a des travailleurs. Hein, il faut quand même poser, à mon avis, en termes d'utilité du travail. Parce que quand on fait ce type de boulot, c'est sûr que c'est pas un problème moral, c'est un problème de l'utilité sociale qu'on a, l'utilité sociale qu'on a. Et là, j'ai vu dans Courant Alternatif du mois dernier, de ce mois-ci, un petit article qui dont le titre est très clair, Vive d'assaut, vive l'emploi, vive la guerre. Alors depuis un an, ça on ne le savait pas, dans différents sites des usines d'assaut, Haute-Saône, Gironde, Pays Basque, etc., des travailleurs avec leurs syndicats, CGT et CFDT, mettent en avant un carnet de commandes plein, 23 milliards de contrats en 2023. Ils ont mené et ils continuent à mener une grève perlée avec débrayage régulier. Ils revendiquent une augmentation de salaire de 200 euros pour tous sur le salaire de base qui s'élève à 1 700 euros, qui n'est pas très important. Le mot d'ordre affiché aux portes des usines où se tiennent périodiquement des piquets de grève est clair. 200 balles ou pas de rafale. Bon, donc si bon, je crois que là,
La formule est jolie.
Bon, alors quand même, il faudrait quand même que se pose le problème un jour de ce qu'on produit, quoi. Hein. Et bon, alors des fois, on est très content qu'il y ait des dockers qui bloquent un certain nombre de livraisons d'armes, comme ça s'est passé, je crois, dans le conflit en Ukraine là. Il y a eu aussi d'autres faits aussi de gens qui bossent et qui s'opposent au transfert de ces armes pour Israël aussi, ça a déjà arrivé. N'empêche que se pose jamais le problème de ceux qui produisent. On ne parle pas de la production. Et alors qu'il faudra aborder ce problème en tout premier lieu, c'est-à-dire que... Et personne ne le pose.
Eh oui, mais 200 000 personnes liées de près ou de loin à l'industrie de l'armement, ça fait quand même beaucoup. Surtout quand tu as, on va dire, la possibilité d'utiliser cet armement dans le poids de cette industrie dans les négociations d'État à État. Parce que si la Russie a acheté des armes et beaucoup d'équipements, c'est d'une part parce que à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, l'armée, il n'y avait pas de thunes, hein, il y a eu une immense crise énorme. Donc l'industrie, on va dire, soviétique ou ex-soviétique a morflé beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se sont servis d'ailleurs, puisque c'était un des endroits préférés des trafiquants d'armes pour pouvoir se faire un petit billet. Les gens qui sont intéressés par ça peuvent voir Un Russe ou Lord of War, par exemple, qui traite, ouais. Ce sont des films qui traitent de ça. Et puis, à partir du début du 21e siècle, des années 2000, avec le redémarrage des industries, notamment pétrolières et gazières russes, il y a eu un sacré paquet de fric.
Et c'est là que Poutine est arrivé.
C'est là que Poutine est arrivé, et il y a eu un sacré paquet de fric. Et ce fric, il a été dépensé en partie, pas seulement, ils s'en sont mis un peu dans les poches quand même, faut pas que la charité bien ordonnée, mais ils en ont aussi profité pour
s'armer
et tout le monde était content, quoi. Sauf que les armes, c'est pas des bonbons, et des fois ça sert, et là tout le monde paraît surpris.
C'est clair que si tu produis des armes, c'est pour se foutre sur la gueule. Et alors, bien sûr, il y a eu et il y a encore le terrorisme. Ces armes vont servir à éradiquer le terrorisme. En fait, non. On s'aperçoit que actuellement dans le monde, il y a 25 conflits armés. Mm-hmm. C'est énorme. Hein. Et je suis sûr que dans tous les conflits, il y a des armes françaises des deux côtés. Des armes américaines des deux côtés. Etc. Alors, au niveau des armes, par exemple... la France est troisième maintenant au niveau de l'exportation.
Cocorico.
Oui, on est le premier, c'est bien sûr les États-Unis, 37%, plus d'un tiers, qui fournit l'Arabie Saoudite, 24%, l'Australie et la Corée du Sud. Ensuite vient la Russie, qui produit 20%, et les principaux destinataires, c'est l'Inde. 23%, la Chine, 18% et l'Algérie. Ensuite, en troisième, c'est la France, comme je vous l'avais dit, 8,2%. Les trois principaux destinataires, c'est l'Inde, l'Égypte, et le Qatar. Bon, il y a la Coupe du Monde là-bas, faut rappeler. Hein. Ensuite, en numéro 4, c'est l'Allemagne, 4,5%. Les principaux destinataires, c'est la Corée du Sud, l'Algérie et l'Égypte. Je m'arrête peut-être là. Cinquième, c'est la Chine. Sixième, c'est le Royaume-Uni. Septième, c'est l'Espagne. Huitième, c'est Israël. Neuvième, c'est la Corée du Sud. Et le dixième, c'est l'Italie. Alors, les chiffres que je vous ai donnés, là, c'est fourni par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le fameux CIPRI, qui fait des rapports tous les 5 ans. Là, ce rapport-là, il date du 15 mars 2021. On en aura donc un autre en 2026. Et par rapport à la fois d'avant, par rapport à ce qui se passait avant, ça s'est stabilisé, mais on est dans la période où la plus haute depuis la fin de la guerre froide.
Ouais, c'est ça. Sur la période 2003-2007, c'est difficile d'avoir des chiffres parce que ça communique pas, c'est pas très transparent. Malgré les conventions internationales comme celle de l'OCDE, on est à plus de 60 milliards d'euros d'exportation. Hein. Donc c'est pas seulement les marchés intérieurs. Donc on voit, hein, c'est tout bénef puisque quasiment on parle, quand on est poli, on dit pas industrie des armes, hein, on dit industrie de la défense. L'industrie de la défense, c'est un des éléments cruciaux dans la balance commerciale et c'est un des seuls éléments qui est excédentaire. Et on voit très bien justement la logique de l'organisation du capital et de la production industrielle capitaliste, c'est-à-dire que les Chinois fabriquent des télés. Les pays de l'Est fabriquent des bagnoles et nous on fabrique des armes et on leur vend quoi. Comme il ne nous reste limite plus que ça, ça serait quand même assez compliqué de ne plus en faire quoi. C'est-à-dire effectivement 200 000 personnes. C'est beaucoup. C'est énorme. Hein. Alors on a parfois de temps en temps ici des grands salons, hein, comme Millipol. Et puis on a tout un tas de gens qui gravitent autour, que ce soit des think-tanks, des chercheurs, des publications. Enfin, il y a à boire et à manger, et il y a vraiment énormément de gens qui vivent sur la bête. Mais pour ça, à la fin, en bout de chaîne, il faut qu'il y ait des gens qui meurent. Et faut qu'il y ait des gens qui se tapent dessus.
Des gens qui se tapent dessus, qui meurent, c'est clair.
Et c'est souvent, on va dire, comme disait Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, quoi. Voilà. Donc on aura l'occasion de certainement revenir là-dessus, quoi. Mais il est déjà 58 et nous devons nous quitter.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Interpret